France Inter.
Fidèle de Libération, l'écrivain et journaliste Philippe Lançon y a notamment œuvré comme reporter polyvalent et chroniqueur télé. En 1998, il consacre une monographie à l'artiste plasticien Jean Davio et rejoint la rédaction de Charlie Hebdo 5 ans plus tard. Il entre ensuite en littérature sous pseudonyme avec le livre « Je ne sais pas écrire et je suis un innocent ». Suivront les ouvrages « Les îles » et « L'élan ». En 2015, il sort grièvement blessé des attentats qui ont lieu dans la rédaction du tristement célèbre journal satirique. Il reviendra sur l'événement dans son récit Le Lambeau, couronné par le prix Femina et un prix spécial Renaudot. En 2016, il signe la préface de l'album illustré La Légèreté de sa consœur Catherine Meurice. Un recueil de ses textes paru dans Charlie Hebdo paraît en 2019 sous le titre Chronique de l'homme d'avant. Et il signera la préface de La Métamorphose de Kafka 6 ans plus tard, ce qui fait espérer une mue existentielle et littéraire positivement achevée. Il vient d'écrire un texte d'introduction pour la nouvelle édition des Buddenbrock du prix Nobel de littérature Thomas Mann, chef-d'œuvre écrit par un jeune homme de 26 ans et tout juste édité dans la nouvelle traduction d'Olivier Lelay chez Gallimard. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Philippe Lançon.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Eh bien, c'est à propos des Buddenbrock. Quelques jours après la publication du livre, je dînais avec une amie au restaurant et elle sort de son sac un exemplaire en allemand des Buddenbrock et elle me l'offre. Et à l'intérieur de ce... j'ouvre l'exemplaire, il était signé en 1954 par Thomas Mann, dédicacé, et avec une photo en noir et blanc, évidemment, à cette époque-là, où on voyait Thomas Mann en train de dédicacer ce livre à celle qui était sa propriétaire et dont on ne sait pas qui c'est. Cet ami avait trouvé ce livre par hasard chez un bouquiniste pour quelques euros. Et sachant que je lui avais offert le livre, en fait, elle l'a acheté. Elle me l'a apporté. Et ça a été vraiment... c'est une de ces petites surprises qui m'enthousiasme toujours, qui sont pas si fréquentes que ça. Et donc, qui m'a pas permis, malheureusement, d'améliorer mon allemand. Mais voilà, j'ai maintenant ce livre avec une photo de Thomas Mann et surtout son écriture.
À quoi ressemble son écriture ?
Très fine, assez pointue, assez élégante.
Parce qu'il est question d'écriture aussi et d'hérédité de l'écriture dès le début des Buddenbrock. Bon, on va en parler tout à l'heure. Je reviens un peu dans le passé parce que j'aime bien faire le portrait de l'invité avant de parler de la dernière actualité. Vous avez fait une maîtrise en droit européen, ensuite le centre de formation des journalistes et puis vous vous êtes spécialisé en littérature hispanique. Alors, quels étaient les livres que vous aimiez en castillan ?
En fait, là, je suis... Je passais toute mon enfance, je passais les étés en Espagne. Donc je pense que ça, c'est l'arrière-plan. Mais disons que mon entrée véritable dans le monde de la littérature hispanique et dans le monde hispanique en général, s'est faite d'abord par Cuba. Voilà, j'ai eu une vie qui était très liée à Cuba. Et donc, je me suis mis à l'espagnol. Mais je m'y suis mis littéralement dans la rue et avec les gens chez qui je vivais, vous voyez. Donc j'ai commencé pendant assez longtemps par ne rien comprendre, parce que c'était un langage très vif, avec un accent très spécifique, très très chantant. Et les gens ne faisaient pas d'efforts pour moi, vous voyez. C'était des discussions qu'ils avaient entre eux et que j'essayais de choper littéralement depuis mon rocking chair jusqu'à des heures indues où j'étais totalement épuisé. Tout ça bercé par des ventilateurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai réappris l'espagnol. Ensuite de quoi, évidemment, mon habitude de lecteur, qui est très ancienne, a fait que, très naturellement, je me suis intéressé à la littérature espagnole en espagnol. Et donc j'ai commencé par lire des poètes cubains, puis des poètes espagnols. Je suis passé beaucoup par la poésie. Il y a eu une époque de ma vie où je me promenais toujours avec dans mon sac un livre de poésie en langue espagnole. Dans le métro, je le sortais et tous les mots que je ne comprenais pas, je les notais. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable encore, donc je ne pouvais pas regarder. Donc je les notais dans un petit carnet et puis rentré chez moi, je regardais dans le dictionnaire. Et j'ai toujours pensé, c'est très banal, que c'était par la poésie qu'on entrait le mieux dans une langue, par la poésie et par le langage vivant, vernaculaire des gens. Vous voyez, ces deux choses-là. Et après, j'ai commencé à lire des romans, des nouvelles, et puis des romans. Donc, et puis, évidemment, étant journaliste, assez vite est arrivé le moment où les deux, la fonction, le métier et la passion se sont jointes, et Libération est un journal qui permettait et qui permet toujours cela. Et donc, évidemment, j'ai proposé, et dès que je pouvais, dès que je partais quelque part, pour des raisons au départ souvent privées, de rencontrer des écrivains ou faire des reportages en Amérique latine ou en Espagne, qui me permettaient de rencontrer tout un tas de gens, et en particulier, évidemment, des écrivains, mais pas seulement.
Vous avez baroudé.
Oui, voilà, c'est ça. Je profitais beaucoup de mes vacances à Cuba pour y rencontrer. C'est là-bas que j'ai rencontré Leonardo Padura, le romancier cubain, qui est un ami, hein, quasiment. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup marché dans la Havane avec lui, vous voyez, enfin, et pas que lui. Donc, c'était vraiment une plongée, vous voyez, dans la culture, mais qui a commencé par littéralement la vie propre.
On va passer un peu plus de 40 minutes ensemble ce soir et je suis tombée sur une interview de vous datant de 2018 où vous qualifiez de dégoûtant bruit publicitaire les entretiens avec les écrivains et les artistes en ce qui vous concerne. Vous dites qu'il y en aura très peu, deux ou trois, pas plus, et aucune télé. Avez-vous évolué ou changé de position sur le sujet ?
Bon, c'était un peu raide, mais disons que, comme souvent, c'était aussi une déclaration un petit peu emphatique que je faisais pour tenter de m'y tenir autant que possible. Voyez.
Donc un garde-fou presque.
Une sorte de garde-fou, comme quand on se lance un défi à soi-même devant les autres pour, sinon le tenir jusqu'au bout, en tout cas essayer d'aller dans cette direction. Parce que tout simplement, plus modestement, je dirais que si on parle trop, on se répète. Et en se répétant, on affaiblit progressivement le peu d'intéressant qu'on aurait à dire. Et donc, ce n'est pas souhaitable.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Philippe Lançon, en 94, vous êtes reporter à Libé de toutes les façons possibles. Là, je vous cite, terrain de guerre, vie politique, vie sociale, vie artistique, portraits de toutes sortes. Ensuite, vous devenez chroniqueur de télévision et là, vous passiez entre 4 et 5 heures par jour à regarder des émissions sur deux télés avec deux magnétoscopes. Alors, la question est la suivante, est-ce que la télévision d'aujourd'hui est plus médiocre que celle d'avant ou est-ce une idée ?
Je ne la regarde quasiment plus.
Bon, c'est une très bonne réponse, alors j'appelle Françoise Sagan à la rescousse.
Je ne sais pas pourquoi il est si difficile de parler de la chance. Je la connais pourtant assez bien, car elle est venue habiter avec moi il y a un an et depuis ne m'a pas quittée. Je parle naturellement de la chance insolente et excessive, celle qu'on salue par son nom au passage. La mienne a des côtés extraordinaires. Je pense surtout au fait d'avoir des lecteurs, ce qui est la chose la plus agréable qui soit. De plus, ma chance est assez exhibitionniste. Elle se rappelle toujours à moi, en mettant dans des situations impossibles, dont elle me tire ensuite par les cheveux, toute contente et triomphante d'elle-même. En voiture et à une certaine vitesse, elle me jette vers les arbres ou sous les autobus et m'en détourne au dernier moment. À ce moment-là, on me dit, quand je sors des débris de la voiture, que j'ai eu de la chance. C'est en son nom que je m'excuse avec l'ingratitude qui caractérise la jeunesse actuelle. C'est en mon nom que je la supplie de rester avec moi.
Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir rencontré et fait le portrait de Françoise Sagan, qu'on entend en 55 sur l'ORTF. Est-ce que vous pouvez raconter votre rencontre, Philippe Lançon, avec elle, car elle fut assez cocasse ?
Eh bien, quand je suis arrivé, il était 3h de l'après-midi. C'était rue de l'Université, non loin des Invalides. Et elle était dans son bain. Donc il y a une dame qui m'a ouverte, qui était sa bonne en quelque sorte. Alors j'ai appris après que cet appartement ne lui appartenait pas. Elle vivait comme un coucou chez quelqu'un d'autre, mais un coucou accepté. Et qui lui avait prêté l'appartement dans lequel elle vivait. Et donc, on m'a dit, Madame Sagan est dans son bain. Donc, je me suis installé dans le salon et un petit chien noir et poilu est arrivé pour me flairer. C'était un peu l'émissaire, en quelque sorte. Et je ne sais pas s'il a trouvé que j'avais une odeur acceptable, mais sa maîtresse est apparue assez peu de temps après, avec un gros collier, un ensemble assez élégant, mais très comme elle était, quoi, c'est-à-dire chic sans ostentation. Et elle m'a expliqué, je lui ai demandé la race du chien, parce que je n'y connais rien, elle m'a dit « Scotch terrier comme Scotch whisky ». Et donc, je ne sais plus d'ailleurs si on a bu un scotch whisky ou pas. Toujours est-il que la deuxième chose dont je me souviens dans cette interview, en dehors de ses propos qui étaient souvent, comme ce qu'on vient d'entendre, à la fois drôle, simple et surprenant. Et elle tirait sur son collier, parce que je pense qu'elle était encore plus nerveuse que moi. Enfin, en tout cas, nous étions nerveux tous les deux, pour des raisons différentes, mais qui se réunissaient, et intimidées, quoi, en fait. Et elle a tellement tiré sur son collier à grosses perles qu'il a explosé. Et on a passé, après le quart d'heure suivant de l'interview, à faire des reptations sur la moquette, il y a de la moquette, à la recherche des perles du collier.
Vous vous en souvenez comme si c'était
hier? Tout en discutant. Ah oui, je m'en souviens parfaitement, parce que c'était cocasse, et en même temps... attendrissant, et c'est le genre de choses qui arrivent trop peu en entretien.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
On accole souvent comme adjectif à Françoise Sagan la légèreté. Vous avez signé la préface de La légèreté de Catherine Meurice chez Dargaud, et je me demandais s'il y avait... Je ne vais pas vous faire parler en détail des attentats de Charlie Hebdo, parce qu'on l'a suffisamment fait, mais vous en êtes sorti grièvement blessé. Il y a eu une très très longue rééducation, beaucoup d'opérations, et je voulais savoir s'il y avait plus ou moins de légèreté dans votre existence depuis.
Dans un premier temps, quand je suis sorti des hôpitaux, mes hôpitaux, comme dirait Verlaine, à qui je ne me compare pas, il a écrit un livre qui s'appelait « Mes hôpitaux ». Parce que c'était un sacré pochard et il avait beaucoup de...
Mais ça, je l'ignorais, mes hôpitaux, ça, je ne connaissais voilà. pas.
Il y a mes prisons et mes hôpitaux. Et en fait, dans un premier temps, j'ai pensé ça et je l'ai dit, peut-être même un peu trop. C'est-à-dire maintenant, oui, finalement, après tout ça, je me sens plus léger. Et puis, finalement, je me suis aperçu que le caractère finit par reprendre le dessus. Vous voyez, comme une... on mue, mais on ne mue pas. Les situations changent, ma vie a changé, mais les caractères s'obstinent et repoussent comme une vieille peau, vous voyez, qui reste, qui demeure, qui s'incruste. Et donc, quelque chose que j'entendais souvent à mon propos, c'était que j'étais grave. Voyez. Et finalement, cette gravité, malheureusement, je crains qu'elle soit toujours là. Mais j'ai peut-être tout de même un peu plus de légèreté que je n'en ai eu. Mais c'est tout de même difficile à percevoir et pour moi. Et voyez, à quel point j'ai changé. Je sens souvent remonter en moi des choses dont je pensais qu'elles avaient disparu.
Pendant longtemps, vous disiez que quand vous vous regardiez ou quand vous relisiez des chroniques comme les chroniques de l'homme d'avant, qui sont celles parues dans Charlie Hebdo, vous voyez un disparu. Est-ce que vous vous reconnaissez de plus en plus ?
Si je regarde ce qui peut m'arriver, je tombe dessus des photos d'avant l'attentat. Alors franchement, c'est pas moi.
Et
pourtant, je n'ai pas tant changé que ça. Oui, mon visage a un peu changé, mais... pas tant que ça. Pourtant, ce n'est plus moi. Ça, alors là, j'ai une sensation très forte d'altérité et de voir un jeune homme à qui il n'était rien arrivé. Pourtant, bien sûr qu'il m'était arrivé des choses, et puis j'étais plus si jeune en plus. Enfin, vous voyez. Mais en fait, c'est quand même une sensation très forte que j'ai, et je ne crois pas du tout l'exagérer. Quant aux textes, aux chroniques que j'ai pu écrire, aux articles avant, évidemment, il m'arrive de temps en temps d'en lire un pour une raison précise, parce que comme beaucoup de gens qui écrivent, j'aime pas trop me relire.
Vous avez relu Le Lambeau ?
Non. J'ai relu des passages quand j'ai dû intervenir, par exemple auprès de lycéens, pour en parler, voire parfois pour lire des passages, vous voyez. Mais franchement, c'est à peu près tout. Et en fait, les textes, il me semblait totalement étranger, disons, entre 2015 et, je ne sais pas, les années 2020. Là, il recommence un petit peu. C'est comme s'il y avait petit à petit le mort qui les a écrits, qui est remonté un peu à la surface et qui refait surface avec des petits saluts sous forme de morceaux de phrases. Où là, je me dis, tiens, oui, là, je te reconnais.
La littérature est omniprésente dans Le Lambeau. Vous avez toujours été un grand lecteur. Vous y parlez de Proust, de Kafka, déjà de Thomas Mann, dont on va parler ce soir. Est-ce que vous pouvez dire un mot de l'appui que furent la lecture et l'écriture de vos chroniques, puisque à l'hôpital, vous continuiez d'écrire ?
Eh bien, les chroniques, et puis assez vite les articles, les chroniques pour Charlie et les articles pour Libération, deux journaux qui ont été quand même extraordinairement m'ont soutenu de manière quand même exceptionnelle et ont tout de suite et très naturellement accueilli mon travail, voyez, depuis la chambre d'hôpital. Donc il y avait quand même un naturel qui m'a fait mieux comprendre aussi pourquoi j'avais choisi ce métier, c'est-à-dire la passerelle entre la vie et la fonction était permanente. Et là, ça s'est avéré de manière quand même très intense. Quelle était la question ?
La question, c'était quel fut l'appui de la littérature et de l'écriture ?
Oui, et ben en fait, de toute façon, comme toute personne qui a passé sa vie à lire, une bonne partie de sa vie à lire, mon premier réflexe, quand j'ai pu ouvrir un œil et les deux, et assez vite être capable de le faire, mais finalement très vite, bien qu'étant physiquement dans un état déplorable, je pouvais pas parler, mais en revanche, je pouvais lire et écrire. Donc je lisais, j'écrivais. Et ça a été fondamental. Après, il y a les livres qui sont arrivés, j'en ai parlé dans Le Lambeau, souvent apportés par des amis. J'ai quand même demandé Proust, mais par exemple, les lettres de Kafka que m'a apporté mon ami et chef de service Claire de Varieux, les lettres à Milena, elle me les a apportées. C'était un très bon choix. Et donc que je pouvais, d'autant plus que comme c'est les lettres, c'est court les lettres, on peut en lire, et je pouvais y compris les amener au bloc, comme j'ai raconté, elles me suivaient partout, et ça m'a énormément marqué. Et de Thomas Mann, La Montagne Magique, que là j'avais demandé.
Qui se passe dans un sanatorium.
Je n'ai d'ailleurs lu à l'hôpital finalement que, je dirais, les 200-300 premières pages, parce que je relisais en permanence les mêmes choses. Et en particulier, toute l'arrivée de Hans Castorp au sanatorium de Davos.
Parce que c'est un type qui va rendre visite à son cousin.
À son cousin.
Oui, à son cousin, et qui pense rester quelques semaines.
Oui, comme
et
on dit au Monopoly, visite simple.
Oui.
Et puis en fait, c'est aller en prison.
Oui, il reste 7 ans.
Enfin, en prison, une prison aérienne, et qui va, tout en le conduisant vers la mort, à le faire accéder à une forme de connaissance supérieure.
Alors, ce qui est amusant, c'est que Kafka parle de Max Brod, vous le citez dans votre préface, dans la nouvelle traduction des Buddenbrook d'Olivier Lelay, et dans cette préface, vous dites que, vous rappelez, avec étonnement, que ce premier roman, publié en 1901 par un homme de 26 ans, est incroyablement gracieux, harmonieux, aérien, sublime, alors que les écrits qui vont suivre sont beaucoup plus ampoulés, pesants.
Alors, je ne sais pas, ampoulé, c'est très difficile de juger un écrivain de la taille de Thomas Mann, vous voyez, de sa dimension. La Montagne Magique, c'est un livre qui, pour moi, pour les raisons en particulier que je vous ai dites là, a été fondamental. J'ai plus de mal avec le docteur Faustus. Ce que je constate simplement, c'est que plus il est devenu grand écrivain, plus les idées ont pris une place et le débat d'idées quasiment autonomes à l'intérieur du récit, comme des blocs. Dans les Woudenbrock, c'est pas le cas. C'est-à-dire que dans les Woudenbrock, les situations, la vie des personnages digèrent les idées. Elles sont prises dans les portraits, dans les dialogues, dans ce que vivent les gens. Et tout ça, parce que, et ça, Olivier Lelay l'a admirablement traduit, c'est évidemment restitué par la musicalité de la langue et par sa fantaisie aussi. Il y a beaucoup de fantaisie dans ce livre, donc qui effectivement ne correspond pas forcément à l'idée qu'on peut avoir de Thomas Mann, qui pourtant en réalité est très importante. C'est-à-dire ses enfants l'appelaient le magicien, et c'est un magicien. Et dans la magie, il y a quelque chose qui est de l'ordre, de la surprise, de la fantaisie, de la grâce. Et ça, dans les Woudenbrock, c'est partout présent.
Ouais, vous parlez de votre surprise à la lecture, de toutes les chutes que vous n'aviez pas prévues. Alors, je vous le dis pour les auditeurs qui ne connaissent pas le livre, l'action se situe à Lübeck, en Allemagne, entre 1835 et 1877, et raconte l'histoire du déclin d'une riche famille de négociants dont la maison de commerce a été fondée en 1768 par Johann Woudenbrock, aïeul héroïque et vénéré, ses fortunes et décadences. Et il a toute une galerie de personnages. Et en fait, dès le début, on voit ce goût de Thomas Mann pour le détail. C'est-à-dire qu'il décrit absolument tout, les traits physiques, les traits de caractère, absolument tout. Les gestes. Et la façon de s'habiller tant et si bien qu'on pourrait même se dire qu'un type comme Bret Easton Ellis a finalement copié sur lui dans American Psycho quand il décrit comment les gens sont habillés pendant deux pages.
Ah, c'est alors les marques en moins.
Oui.
Parce qu'on n'était pas encore dans un univers de marque, mais il y avait l'équivalent, qui était la nature des tissus qu'on utilisait, enfin, tout un tas de les représentations. Le salon des Woudenbrock est un salon dans lequel il y a des tapisseries, enfin, tout ça, et tous les signes sont là, il y a des signes. Donc de ce point de vue-là, ce serait intéressant de savoir si Bret Easton Ellis a effectivement lu les Woudenbrock.
Je n'arrive pas jusqu'à dire ça. Mais...
Et disons que ces descriptions, souvent très drôles, hein,
oui,
sont des descriptions. Beaucoup de personnages semblent jaillir du monde de Dickens et de Balzac.
Par exemple, Johan, son double menton s'étalé avec des aises de prélat sur le jabot de dentelle blanche.
Oui, voilà. Donc tout est important, on voit le personnage dont la tête se recroqueville, et évidemment le jabot de dentelle est essentiel aussi. Donc il y a tout un... Et Olivier a fait un gros travail sur
de traducteur,
sur les termes, vous voyez, comment leur conserver la patine et le sens qu'ils avaient à l'époque, tout en n'en faisant pas des objets de collection, vous voyez.
Tristan et Isolde de Wagner, prélude de l'acte 1 dirigé par Andris Nelsons. C'est peut-être le morceau que Thomas Mann jouait tout le temps, puisqu'en tout cas il jouait tout le temps le même air de Tristan et Isolde au piano. Et vous dites, Philippe Lançon, que ça a sans doute influencé la composition des Woudenbrock, mais sans savoir comment.
Disons que Thomas Mann, il l'a dit, travaillait beaucoup à partir de leitmotiv. Qui revenait, phénomène qui est extrêmement fréquent chez Wagner. Wagner travaille là-dessus, Mann s'en est très bien expliqué. Et donc dans les Woudenbrock, en réalité, il y a tout un tas de leitmotivs qui reviennent en permanence, mais qui sont tapis, vous voyez, comme des souches sous un tapis de feuilles mortes, là. Et donc, il travaille là-dessus, et je pense que je comprends très bien comment il pouvait en permanence. De toute façon, quand on écrit un roman de cette puissance et de cette taille, il fait quand même plus de 900 pages, on est forcément dans un état obsessionnel. Et je l'imagine très bien, peut-être à tort, cesser à un moment d'écrire et puis aller jouer toujours le même air au piano, et puis revenir, et puis y penser, et puis revenir et rejouer le même air au piano, et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre.
Vous êtes obsessionnel ?
Moins que Mann, mais probablement, mais je n'ai malheureusement pas son génie non plus. Donc.
C'est votre choix musical, Philippe Lançon, arabesque numéro 1 de Claude Debussy par Nikolaï Louganski, et vous avez apporté un livre.
Oui, de Debussy. Alors pourquoi j'ai choisi l'arabesque ? Eh bien, parce que ma femme, qui s'est remise au piano, travaille ses terres depuis maintenant à peu près un mois et demi, deux mois. Donc moi, quand j'écris, puisque je travaille à la maison et c'est au piano qu'elle joue de la à la maison qu'elle joue du piano, eh bien, en fait, je suis enveloppé en permanence dans ses terres. De manière, alors précisément, obsessionnelle, puisque la musique, c'est du travail. C'est une répétition infinie des mêmes mesures, des mêmes notes, des mêmes doigtés, jusqu'au moment où on l'a dans les doigts. Voilà.
Là, vous parliez du style de Thomas Mann, qui est très musical, mais ce qui frappe chez lui, c'est qu'il y a une sorte de sprezzatura, comme on dit en italien, c'est-à-dire qu'on dirait que tout lui semble aisé, alors qu'en fait, ça a dû nécessiter un labeur incroyable. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la temporalité de l'écriture des Bodenbrock?
En fait, il l'a commencé en Italie. Alors, toute l'histoire se passe à Lübeck. Hein. Enfin, pas toute, il y a une partie à Munich et à Hambourg aussi. Mais quand même, l'essentiel de la famille est de Lübeck, qui était la ville de Thomas Mann, mais qu'il a quitté assez tôt avec sa famille pour aller vivre à Munich. Et donc, il y a toujours d'ailleurs une confrontation dans le livre entre le Nord et le Sud. Enfin, il y a beaucoup de confrontations, mais il y a entre la vie bourgeoise et la vie artistique. Sachant que Thomas Mann ne choisit jamais, c'est-à-dire tout est toujours révoqué en doute de tous côtés. Il ne faut absolument pas croire que Thomas Mann, qui est un immense artiste, pense que l'art est la panacée et que la bourgeoisie, c'est le mal.
Vous citez d'ailleurs une conférence merveilleuse où il s'exprime dessus, il dit qu'il ne renie absolument pas ses origines bourgeoises et qu'il voudrait s'en débarrasser par la littérature.
Voilà, et ce non-reniement de l'État bourgeois, de la part de ce grand artiste, enrichit l'artiste. Vous voyez, peut-être pas celui qui a écrit des textes politiques et tout ça, parce qu'il y a eu des moments où il flottait, il a écrit des textes, il y a eu un moment où il était nationaliste, qui était plus compliqué. Mais quand il est romancier ou novelliste, très franchement, il parvient par la langue à faire cohabiter tout ça, de manière non antagoniste, tout en mettant en scène les conflits. Voilà. Donc
le thème principal du film est la recherche d'un artiste de la perfection dans son œuvre, et tout à coup la révélation que la perfection existe en dehors de l'effort de l'artiste même. Ça, je crois que c'est le thème principal. Et en même temps, c'est un thème qui se rejoint aussi au thème de la maladie, de l'art, de la maladie et de la mort, qui sont des thèmes maniens, très maniens, dans tous les romans de Mann.
Luchino Visconti évoque son film Mort à Venise dans Midi Magazine en 1971. Philippe Lançon, vous écrivez dans la préface au Bodenbrock que, comme beaucoup de gamins cinéphiles, vous ne connaissiez son œuvre à Thomas Mann, celle de Thomas Mann, qu'indirectement grâce au film légèrement ennuyeux de Luchino Visconti. J'en garde le même souvenir, quelque chose de très envoûtant et de légèrement ennuyeux. Et le roman s'appelle La Mort à Venise.
Oui, La Mort à Venise, à ma connaissance, il y en a, comme il vient de tomber dans le domaine public, d'où la traduction des Bodenbrock. Il y a 4 traductions, je crois, qui sortent ou ressortent de La Mort à Venise actuellement. Oui, j'appartiens à une génération, j'étais dans un lycée de banlieue, où on allait voir beaucoup de films, on nous amenait voir des films, entre guillemets, d'avant-garde. D'ailleurs, beaucoup de cinéma allemand. Schlendorf, vous voyez des
ah oui, des choses qui restent dans les psychés.
Oui, qui m'ont beaucoup marqué. Ça, franchement, Le Tambour, je m'en souviens fort bien.
Ah bah moi aussi.
Et La Mort à Venise aussi. Et alors, la première fois que je l'ai vu, étant vraiment jeune, en même temps, c'était mémorable parce que je m'en suis très très bien souvenu. Donc, c'est ça qui compte en art, c'est l'aspect. Donc, ça veut dire que c'est passé. Et en même temps, un léger ennui avec ce personnage joué par Dirk Bogarde, jusqu'à sa mort par le choléra, fait quand même beaucoup de minauderies, voyez, dans Venise, voyez. Donc il y avait une lenteur. Là encore, j'appartiens à une génération que la lenteur au cinéma ne gênait absolument pas. On a été éduqués comme ça. Mais là, il y avait une lenteur qui, elle me gênait pas, mais oui, qui me mettait dans une sorte d'ennui. Je flottais un peu entre les canaux vénitiens, quoi, vous voyez. Après coup, là, maintenant, je l'ai relu, là, récemment. Je parle du livre. Cette fois, j'ai pas revu le film depuis très, très longtemps. Le livre qui est une longue nouvelle, hein, en fait. Je le trouve admirable.
Vous dites que dans les Buddenbrook, la mort est partout, mais que quand elle arrive, Thomas Mann la tient à distance. Et d'ailleurs, vous citez l'un de ses fils, écrivain aussi, qui disait au sujet de son père, depuis sa jeunesse, la mort était sa spécialité.
Oui, oui, Klaus Mann qui ajoutait que, après tout, il nous avait montré dans les Buddenbrook, je cite plus ou moins, qui c'est un endroit où il avait exterminé toute la famille. Pas toutes, les femmes survivent.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'il s'est. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la mort d'un des personnages absolument centraux qui dirige la firme des Buddenbrook jusqu'à son déclin, Thomas Buddenbrook. Sa mort, après un passage chez le dentiste épouvantable sur un trottoir enneigé, où cet homme qui était obsédé par son élégance meurt littéralement dans la boue et dans le sang et dans la neige. En quelques lignes, ça, c'est vraiment saisissant. Et la mort de son fils, Anno, qui est le dernier des Buddenbrook, elle est comptée en ellipse. Il meurt de la typhoïde. Et en fait, Thomas Mann ne la décrit pas. Ce qu'il décrit, c'est les symptômes de la typhoïde, comme si c'était un rapport médical général sur ce que c'est que la typhoïde. Voyez ? Et on comprend à ce moment-là de quoi est mort Anno.
On parlait d'ennui plaisant il y a quelques minutes. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de Thomas Mann quand il envoie son manuscrit à son éditeur? Est-ce que son éditeur lui demande de faire ne fera pas Thomas Mann d'ailleurs.
Alors il lui envoie, il n'a qu'un seul exemplaire de son manuscrit. Il le fait assurer, mais pour je crois 1000 marks ou quelque voilà. Et on peut évidemment se demander si la poste, enfin. On peut raisonnablement espérer que la poste allemande fonctionne, et en général elle fonctionne bien, mais s'il n'était pas arrivé, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce qu'il l'aurait réécrit? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait l'éditeur? Eh bien, il lui a répondu ça. « Je ne crois pas que beaucoup de gens disposent du temps et de la concentration nécessaire pour lire une fiction aussi longue. Je sais que ma demande est monstrueusement déraisonnable, tu parles, et qu'elle implique peut-être pour vous une réécriture complète du livre, mais en tant qu'éditeur, je ne peux résoudre autrement le problème. »
Ce qu'heureusement Thomas Mann a refusé, le livre paraît sans coupe en octobre 1901 en deux volumes, au prix de 6 marks chacun, apprend-on sous votre plume, Philippe Lançon, et à 1000 exemplaires, et c'est tout de suite un grand succès. Vous citez aussi une chose assez surprenante, c'est que son frère, Heinrich Mann, lui-même écrivain, disait qu'après avoir écrit ce livre, Thomas Mann n'avait plus jamais souffert de la vie. Vous croyez que c'est vrai?
Non.
Oui, moi non plus. Alors, j'aimerais qu'on parle... c'est un chef-d'œuvre, c'est magistral, il a fait rentrer toute l'humanité dans ce livre, donc on ne peut pas aborder tous les thèmes qui charrient ce magnifique roman, mais il y a une réflexion sur la religion et la foi, puisque plusieurs personnages vont ou s'enfoncer dans la religion ou s'en détourner parfaitement. Et là, j'en profite pour connaître et vous interroger sur votre rapport au sacré, ou à la transcendance, quelle qu'elle soit.
Très faible.
Ah oui ?
Oui. Sauf en passant par, mais c'est des mots que j'emploierai pas pour ça, par l'art, vous voyez, ou la littérature.
Bach,
absolument. D'ailleurs, si je peux vous lire quelque chose de Debussy.
Bien sûr, puisque vous avez apporté un livre, je l'ai mentionné tout à l'heure.
Il écrivait très bien, Debussy. Il a écrit beaucoup d'articles, peu de gens le savent. Et par exemple, en 1913, il écrivait ça.
Et comment s'appelle le livre ?
Alors, le livre, il s'appelle « Monsieur Croche », en publié en l'imaginaire Gallimard. C'est un vieux livre, hein, déjà. Et dans un de ses articles, il écrivait ça. « Le génie peut évidemment se passer d'avoir du goût, exemple Beethoven. Mais on peut lui opposer Mozart, qui a autant de génie, ajoute le goût le plus délicat. Si nous regardons l'œuvre de Bach, Dieu bienveillant auquel les musiciens devraient adresser une prière avant de se mettre au travail pour se préserver de la médiocrité. Cette œuvre innombrable où l'on retrouve à chaque pas ce que nous croyons être d'hier, depuis la capricieuse arabesque, jusqu'à cette effusion religieuse pour laquelle nous n'avons rien trouvé de mieux jusqu'ici, on y cherchera vainement une faute de goût. Eh ben, on peut pas dire beaucoup mieux sur Bach, en fait. Donc après, il suffit de l'écouter, et si on est musicien, amateur ou pas, de tenter de le jouer.
Alors la musique, c'est quelque chose qui charrie vraiment les Buddenbrook. Attendez, je sais plus ce que je vais dire. Oui. Qui charrie les Buddenbrook. On a parlé de son style, de la musicalité de son style. Il y a de nombreux mots en français. Bon, alors on peut être étonné, le lecteur d'aujourd'hui peut être étonné, mais il faut dire qu'à l'époque, il était de bon ton d'apprendre le français quand on venait d'un autre pays d'Europe. Vous parlez à un moment des écrivains qui auraient pu l'influencer. Alors vous citez Nietzsche et Schopenhauer parmi les philosophes, et vous citez des Français, Flaubert avec l'éducation sentimentale et les frères Goncourt avec René Mauprin.
Oui, que je me suis procuré, j'ai commencé par lire, c'est plus pour la, apparemment, hein, pour la construction, c'est-à-dire de le temps qui passe à travers de courtes scènes, vous voyez, qui s'enchaînent et qui donc permettent de faire d'autant mieux ressentir le poids du temps qu'il y a des ellipses, c'est-à-dire on passe vraiment d'une année, on fait des sauts comme ça d'année, et on retrouve les mêmes personnages, mais évidemment dans des situations différentes, qu'on comprend dans la nouvelle scène progressivement. Et ça, il semblerait que il l'ait pris. J'ai lu ça dans des biographies américaines. Il n'y a pas de biographie française. Il y en a des allemandes et des américaines de Thomas Mann.
Vous en avez à recommander ?
Là, de mémoire comme ça, non. Mais voilà, il y a essentiellement deux biographies américaines sur lesquelles j'ai travaillé pour écrire cette préface. Et où il est dit que apparemment une de ses influences, ça serait ça. C'est bien pour ça que j'étais allé voir à quoi ressemblait René Mauprin, qui pour le reste n'a aucun rapport avec le style. Beaucoup plus Flaubert, l'éducation sentimentale, que d'ailleurs le traducteur Olivier Lelay, qui est un ami, donc a relu de près au moment où il traduisait les Buddenbrook.
Alors, ce qui est amusant dans les mises en abîme ou dans les associations, c'est que vous dites que vous avez été attiré par la Baltique grâce à deux livres, Effie Briest de Théodore Fontane, publié en 1896, que Thomas Mann avait aussi lu, et dans lequel figure un personnage secondaire du nom de Buddenbrook, et les Buddenbrook, bien évidemment. Est-ce que vous voulez dire un mot de ce livre, Effie Briest?
Effie Briest.
B-R-I-E-S-T.
C'est vraiment un des très grands romans allemands et pas des très grands romans tout court du 19e siècle. Et c'est l'histoire d'une femme qui épouse un personnage, elle est de bonne famille et elle épouse un noble, quoi, qui est un personnage important. Et elle va tomber amoureuse au bord de la Baltique d'un officier qui s'appelle Crampas, avec qui elle va avoir une histoire. Donc il faut bien comprendre, hein, on est dans l'Allemagne au milieu du 19e siècle. Enfin. Et quand le mari va s'en apercevoir, dit comme ça, c'est très banal, hein, il va le provoquer en duel, Crampas, et donc le tuer. Et c'est au moment du duel, uniquement là, qui se passe sur une plage de la Baltique, qui est un duel très digne et laconique, qui est précédé par une longue discussion de Crampas et suivie d'une autre réflexion de Crampas sur le fait « dois-je le provoquer sur la question de l'honneur ou ne pas le provoquer ? Que dira-t-on si je ne le provoque pas ?» Que dira-t-on si je le provoque ? Et en même temps, il y a chez ce personnage quelque chose de très allemand, à mon avis, un examen de conscience extrêmement profond sur les raisons de l'acte qu'il doit faire. Il considère que c'est de l'ordre de son devoir de le faire, mais ce n'est pas du tout un acte de colère, vous voyez, ça ne se présente pas du tout comme ça. Et il le tue, et donc, c'est au moment du duel que apparaît l'un des témoins, mais pour à peine quelques lignes, qui s'appelle Buddenbrook. Et donc, effectivement, en fait, c'est en relisant « Éphibriste » que j'avais lu une première fois sur la Baltique, de même que les Buddenbrook, pas la même année, que je me suis aperçu, ce que j'avais complètement oublié, ou que je, peut-être n'y avais-je même pas fait attention, que ce témoin, l'un de ces témoins, s'appelait Buddenbrook, et en fait assiste à la mort de Crampas. Et donc, mon travail un peu fantasmatique de lecteur, presque de midinette, s'est dit, ben, c'est un passage de témoin, finalement. Tout à coup, j'ai vu dans ce duel, et dans la mort de Crampas, qui est un personnage assez digne aussi. Vous voyez, c'est pas des minables, hein, tous ces gens-là. Finalement, que le passage des témoins entre Éphibriste et les Buddenbrook s'opérait par le biais de ce nom qui n'apparaît que dans quelques lignes dans le premier roman, pour finalement accompagner à mort.
Est-ce que vous pourriez dire un mot du bref roman paru 2 ans après les Buddenbrook, qui est Tonio Kröger ?
Alors, Tonio Kröger, il y a des Kröger dans. Il y a une famille très importante, oui, dans les Buddenbrook, hein, parce qu'en fait, on est dans les familles de la très grande bourgeoisie hanséatique, c'est-à-dire de Lübeck. Et l'une de ces familles, ce sont les Kröger, qui est liée aux Buddenbrook. Et donc, un personnage qui, dans ma mémoire, là, n'apparaît pas en tant que tel dans les Buddenbrook, Tonio Kröger, est un jeune homme qui est quand même une sorte d'excroissance fictionnelle de l'auteur. Hein. Va vivre un voyage au Danemark et un retour, et assister par hasard dans une auberge dans laquelle il s'est installé, très solitaire et mélancolique, au moment où il est en train de décider de sa vocation, en fait. Et sachant que la jeune femme qu'il aimait n'est plus là. Et en fait, il va assister à un bal de mariage dans cette auberge. Et c'est une scène longue et tout à fait extraordinaire, parce que il croit revoir la femme qu'il a aimée et qu'il aime toujours, et c'est écrit de telle façon que, en tout cas, je suis un lecteur assez naïf, hein, tout de même, et j'ai vraiment eu pendant longtemps je flottais, c'est-à-dire je ne savais pas si ce qu'il voyait était réel ou si c'était un fantasme. C'était écrit de telle façon que je confondais la réalité vécue, qui était qu'il assistait à une scène de mariage qui, en fait, représentait la vie que, finalement, il n'aurait pas, mais que, quand même, Thomas Mann a eue, puisqu'il s'est marié, il est resté un grand bourgeois, il a eu des enfants, tous relativement névrosés, d'ailleurs. Et en fait, en même temps, le fantasme de ce qu'il aurait pu être, quoi. Vous voyez, donc, il y avait dans cette scène extraordinaire de Tonio Kröger, qui est comme, effectivement, une sorte de préquel. Certains disent qu'il l'a écrit avant, pendant. Moi, je pense qu'il l'a écrit plutôt après les Buddenbrook. Tout n'est pas toujours clair dans la généalogie d'un écrivain, vous voyez. Et donc voilà, c'est un livre, c'est un petit livre, hein, c'est une longue nouvelle qui est tout à fait étonnant et qu'il est intéressant de lire parallèlement, mais c'est un de ses grands petits livres. Il en a écrit quelques-uns comme ça.
Je ne le déteste pas, c'est l'homme que je hais le plus au monde.
Tu partiras pas.
Et qui m'en empêchera ? Toi ?
Un couple d'amants se déchire. Pourquoi ? À cause de l'argent.
Où est l'argent ?
Avec l'argent, on a tout ce qu'on veut. On a la considération. Si on a des ennuis, on peut se payer un bon avocat. Et puis ça peut aider pour avoir la Légion d'honneur.
Philippe Lançon, il paraît que vous appréciez beaucoup les acteurs et les actrices et qu'ils vous aident à vivre. Et vous adorez en particulier Catherine Deneuve, qu'on entend dans La sirène du Mississippi de François Truffaut, film sorti en 69.
Oui, qui est un magnifique film avec une scène finale de fuite très très belle. C'est un film sur l'impossibilité de l'amour. C'est un des plus beaux films de Truffaut, même si c'est un film... Vous savez, un de ses films malades, c'est-à-dire qui n'a pas eu beaucoup de succès. On pourra toujours se demander si Belmondo était le personnage du rôle, puisqu'il était quand même un personnage qui était entré dans une période de sa vie où les rôles qu'il interprétait étaient plus, comment dire, énergiquement positifs. Et donc, est-ce qu'il est le personnage idéal dans ce rôle tragique ? C'est une bonne question. Par contre, le film est ce qu'il est. Et quant à Catherine Deneuve, elle est admirable dans ce film comme dans beaucoup d'autres. C'est-à-dire la proie qu'on n'arrive pas à attraper.
J'ai envie de vous interroger sur tant d'autres sujets, notamment vos goûts littéraires, mais on arrive à la fin de cette émission, donc je le dis pour les auditeurs, lisez Les Amours Jaunes de Tristan Corbière et les poèmes de Blaise Cendrars, qui furent vos émois littéraires il y a de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de la découverte que vous avez choisie pour clore cet entretien ? Il s'agit d'une série pour les auditeurs, c'est Bronn, la série policière suédoise diffusée sur Arte, la 4e saison vient d'être diffusée, indiquez-vous.
Oui, c'est d'ailleurs cette 4e saison qui m'y a fait penser. Alors, figurez-vous que la première saison, les deux premières, je les ai vues à l'hôpital des Invalides, dans ma chambre, après l'attentat. Donc, je me souviens que j'ai vu la première saison en décembre 2015, dans la chambre dans laquelle avait été soigné, bien avant moi, le président algérien Bouteflika. Et donc, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et cette saison, cette série m'a tout de suite énormément marqué du fait de son personnage principal, Saga Norén, qui est donc une détective suédoise, une policière et une inspectrice, et qui donc est une autiste, c'est-à-dire qu'elle elle est incapable de dire ce qu'elle ne de mentir, de dire ce qu'elle ne pense pas. Et même par omission, c'est d'ailleurs une des choses qu'elle doit apprendre, mais qu'elle, même quand elle l'apprend maladroitement parce qu'elle ne sait pas faire, et qui finalement ne dit que la vérité aux gens, la vérité concrète et matérielle. Et c'est une très très grande héroïne, à mon avis, de la même dimension que Sherlock Holmes, qui est aussi d'ailleurs d'une autre façon un personnage malade. Et ce qui est très frappant et qui la rend très attachante, c'est que dans ce monde de décrépitude, de crimes et de mensonges et de névroses épouvantables et de psychoses qui est propre à cette série, puisque c'est une série policière très remarquable sur les sociétés scandinaves et sur les rapports entre le Danemark et la Suède, en fait, ce personnage psychologiquement malade, qui en fait c'est un syndrome d'Asperger en quelque sorte, devient l'ami, la sœur, et devient totalement rassurante. C'est-à-dire que, pour moi, spectateur, le personnage dans ce désastre général de cette série, qui est mais très admirable, hein, enfin très très bien conté, qui est raconté, le personnage auquel se raccrocher, et le seul en qui, en fait, on peut vraiment avoir confiance, c'est elle. C'est elle que tous les autres, ou presque tous les autres, avec qui tous les autres ont tant de mal.
Merci beaucoup Philippe Lançon. Les Boudenbrock, déclin d'une famille, préfacé par vos soins et paru chez Gallimard dans une nouvelle traduction d'Olivier Lelay. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Anaïs Boucher et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique ce soir, Alix Barrois.